Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le livre que nous lisons en ce moment, D'un jardin à l'autre, de Frédéric Baudin, CEMX. Ce livre nous invite à faire une promenade dans des jardins mentionnés dans la Bible, avec pour guide l'auteur Frédéric Baudin. Nous avons visité lors de notre précédente émission le jardin des délices. Mais la fin de ce premier épisode nous a amenés malheureusement à rencontrer un jardin différent. Nous le regardons aujourd'hui, c'est le jardin sans Dieu. Reprenons notre lecture. Chapitre 2. Le jardin sans Dieu. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de Dieu, comme le pays d'Égypte. Genèse chapitre 13, verset 10. Que deviennent l'homme et la femme dans ce grand jardin de notre planète bleutée après qu'ils ont rompu leur pacte d'amour avec Dieu? Leur vocation se résume en trois couples de verbes mentionnés dans la Genèse. Multiplier et remplir la terre, qu'il faut dominer et soumettre, mais aussi cultiver et garder. Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, agriculteurs, puis forgerons, artistes, dont l'empreinte la plus ancienne subsiste sur les murs des cavernes ou enfouie sous les sables, marchand ou administrateur, tout être humain depuis l'aube des temps, des dizaines et des centaines de milliers d'années ou des siècles, remplit cette mission qui lui est confiée par le Créateur. La nuance introduite par l'auteur de la Genèse mérite cependant d'être relevé. L'humanité était d'abord appelée à accomplir ce travail en communion avec Dieu. Et cela est devenu difficile, voire impossible, car elle a été éloignée de la présence divine. La société des hommes est désormais prise dans les liens du mal, du meurtre de Caïn aux violences de toute une génération. Elle franchit les limites du non-retour. Le jugement de Dieu et le déluge faillirent l'anéantir, raconte l'écrivain inspiré qui fait écho à un cataclysme dont on retrouve les traces confuses dans la mémoire universelle de la préhistoire et dans les mythologies anciennes. L'épopée de Gilgamesh est sans doute la plus populaire et la plus connue au Proche-Orient durant le troisième millénaire. Elle accorde une large place au déluge. Comme dans la plupart des mythes, le déluge est provoqué par un ou plusieurs dieux indisposés par le vacarme des hommes. Il les empêche de dormir, il trouble leurs fêtes. Dans la mythologie grecque, Zeus châtie les hommes et les femmes devenus insupportables, mauvais, menteurs, parjures, voleurs, infidèles. Ces thèmes apparaissent dans le livre de la Genèse. Les points communs avec les traditions mésopotamiennes sont indiscutables, mais les différences restent sensibles. L'homme et la femme, par exemple, sont au service, au bénéfice de la grâce et de la providence divine. Ils n'ont pas d'épreuves à surmonter ni d'obstacles à franchir pour obtenir l'immortalité. Ils sont simplement tenus de placer leur confiance en Dieu, de se maintenir dans l'amour divin, quelles que soient les circonstances. Pour l'humanité issue de Noé, Et pour la faune rescapée du déluge, un espoir demeure. Comme l'arc-en-ciel apparaît lorsque le soleil l'emporte sur la pluie, Dieu adresse une promesse aux hommes et aux femmes de tous les temps. Il laisse une porte accessible, il trace un chemin pour qu'ils retrouvent le lieu de sa présence. Inutile de se liguer pour bâtir une cité sans fin, une tour de Babel jusqu'au ciel, pour tenter d'accéder au royaume de Dieu. Il est vain de vouloir même grimper les échelons de la morale la plus excellente et inflexible. Le Seigneur est si loin et si haut que Gagarine, lancé en orbite au-delà de notre atmosphère, affirme naïvement qu'il n'a pas pu l'entrevoir, comme d'ailleurs nos télescopes téléguidés ou satellisés au plus profond de l'espace. C'est que nous sommes encore aveugles et que le règne de Dieu est malheureusement plus éloigné que la dernière étoile de l'ultime galaxie de notre univers. Qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer, écrit encore Pascal dans son livre « Les pensées ». Mais Dieu se trouve aussi beaucoup plus près de nous. Sa loi d'amour, sa parole devrait s'inscrire et retentir au cœur de notre être. Pourquoi ne pouvons-nous le voir et le connaître? Combien d'entre nous ont-ils cherché en tout lieu, à toute heure, d'Orient en Occident, à bâtir de savantes démonstrations, les systèmes philosophiques les plus élaborés, une gnose réservée aux seuls initiés? Combien ont parcouru les labyrinthes ésotériques balisés par les magiciens de l'esprit ou les chemins larges que l'on emprunte par intuition, tous les sens en alerte? Combien se sont forgés une religion immanentiste aux contours des plus nets aux plus confus pour tenter de trouver ce Dieu lointain et inaccessible, pour se donner l'illusion que c'était encore possible? Il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître que l'on doit tout dans cette recherche à la grâce divine. Le Seigneur se révèle volontiers. Il descend l'échelle lancée du ciel jusqu'à nous. Il se met à notre portée. Dieu n'est pas étranger à notre monde. Il n'est pas insensible à notre labeur. Notre vie matérielle et spirituelle se déroule sous son regard. Si la dualité subsiste, l'esprit ne peut se confondre avec le corps ou la matière. Les deux composantes du monde et de notre être ont de la valeur aux yeux de Dieu, créateur des choses visibles et invisibles. Il s'agit donc bien pour nous de peupler ce monde et de le rendre habitable, de le préserver et l'embellir. Objectif valeureux, bel et bon, mais combien difficile à atteindre. La croissance de la population mondiale suit une courbe exponentielle qui a donné le vertige à Malthus et à ses disciples. Notre domination sur les espèces animales et végétales, comme sur nos semblables, est entachée d'arrogance tyrannique et de folie destructrice, attisée par la cupidité. Notre culture a perdu le sens premier du culte, du service. Le développement de notre humanité remet sans cesse en cause sa durabilité. Car sans Dieu, le jardin produit des fruits vénéneux. Notre terre est livrée à l'anarchie, à ceux qui la détruisent et s'attirent ainsi le malheur. Les théologiens distinguent toutefois la grâce commune ou révélation générale accordée par Dieu à tout être humain de la grâce spéciale ou révélation particulière transmise à ceux qui le reconnaissent par grâce comme Seigneur, souverain du monde et de tout ce qu'il renferme, maître de justice par amour. Ces élus forment le peuple mis à part pour Dieu, ce que l'on traduit de l'hébreu par « sanctifié ». Tous les hommes et femmes habitent le même jardin et travaillent ensemble, si possible, pour le bien du plus grand nombre. On perçoit plus ou moins nettement les différences. On peut goûter les fruits du peuple de Dieu suffisamment pour le persécuter et le contraindre parfois au martyr, à rendre un ultime témoignage, comme le suggère ce mot d'origine grecque. Pas assez pour séparer le bon grain de l'ivraie ou les brebis des boucs, même au sein de ce peuple où se mêlent des loups aux crocs menaçants. Il faut attendre l'heure où Dieu décidera de procéder lui-même au dernier jugement, tâche redoutable et délicate qui ne relève pas de notre humanité, hélas, atteinte de cécité. Osons l'avouer d'emblée et reprendre ainsi à notre compte les paroles des psalmistes et des prophètes. Les pensées de Dieu nous dépassent, ses jugements sont insondables, nous ne saisissons pas bien la théologie de notre histoire. Il nous reste à nous soumettre à Dieu qui a créé le jardin de ce monde. Nous faisons confiance au Créateur des molécules et autres particules élémentaires et insaisissables, de toutes leurs combinaisons complexes et de leur rythme chaotique bien coordonné. Nous avons foi en l'auteur du plus haut des sentiments humains, l'amour, rare comme le plus précieux des métaux. Cela nous suffit pour nous convaincre que Dieu est sage, intelligent et rempli d'amour. Cela ne nous suffit pas pour comprendre d'où vient le mal et pourquoi il se prolonge et se propage. Cela ne nous aide pas à savoir comment Dieu choisit et reconnaît les siens, et moins encore pour quelle raison, ici, un enfant meurt, une femme est violée, un homme assassiné, là, une foule est balayée par un soubresaut de l'écorce terrestre, crachant son feu meurtrier ou soulevant les flots. Comment comprendre que le grand jardin de la terre abrite nos joies les plus hautes comme nos peines les plus profondes? Aveugles, nous le sommes au point de ne plus discerner la vérité, gage de notre liberté. Le neveu d'Abraham, Lot, a ainsi choisi pour s'établir la vallée de Sodome qui est comme un jardin de Dieu, comme la vallée du Nil en Égypte. Genèse chapitre 13, verset 10. Son oncle, le valeureux patriarche, lui a laissé le choix. Il a accepté pour territoire les monts arides, aux formes abruptes et à l'aspect sévère, pour mener ses troupeaux vers des pâturages clairsemés. Lot s'est laissé séduire par les jardins plantureux de cette vallée que Dieu lui-même s'apprête à quitter sous le feu et la grêle de son jugement. Il est chassé de ce coin de paradis par des hommes et des femmes prosternés devant le plaisir érigé en Dieu, serpent du Proche-Orient ancien, phallus des primitifs dressé avec fierté dans les campagnes. Ce Dieu revêt tantôt les traits d'un mari séduisant, Baal infidèle et vindicatif des peuples sémites, tantôt le visage attrayant d'une femme Ishtar, arrogante et impitoyable, déesse que l'on craint et vénère, que l'on invoque pour rendre la terre et les femmes plus fécondes. Ces dieux, dépourvus de réalité, nés de l'imagination des hommes, ces idoles façonnées dans le bois ou le métal que l'on peut voir et toucher, ont aveuglé leurs concepteurs au point qu'ils en ont perdu la raison. Des habitants de Sodome et Gomorre sont prêts à violer quiconque, homme ou femme, enfant peut-être. Toutes les générations se sont liguées, en effet, pour encercler la maison où Lot s'est réfugié avec sa famille. C'est que Lot a accueilli deux visiteurs au visage d'ange, deux hommes que l'on ne connaît pas dans la région, mais que l'on convoite déjà, qui excitent la frénésie, qui enflamment les esprits et les sexes de la foule assemblée devant la porte. Ce sont des anges, en vérité, ambassadeurs de Dieu qu'ils représentent, dont ils portent la présence et l'amour vrai en même temps que le jugement de toute entorse à cet amour, afin qu'il demeure authentique. Ils avertissent leur hôte. Dans peu de temps, la cité corrompue qu'il a choisie pour établir sa demeure, cette communauté humaine dégradée qui ne distingue plus le bien du mal, dans le plaisir sera détruite. Lot prend son temps, il tarde à partir, il semble peu convaincu. Il risque de perdre la vie dans ce jardin aux fleurs et aux fruits sulfureux. Il en réchappe in extremis, pressé par les anges qui le saisissent par la main avec quelques membres de sa famille, excepté sa femme. Elle veut jeter un dernier regard en arrière. Elle n'est pas totalement insensible à ses plaisirs divinisés et les regrette déjà, après avoir marché seulement une heure pour s'éloigner de la ville menacée du jugement de Dieu. Et Lot plaide encore pour ne pas courir trop loin. Il veut se réfugier à Tsoar, la dernière ville de cette vallée maudite fermée par une mer morte. Pour échapper au mal, il est nécessaire de lui tourner résolument le dos, quand bien même il ne manquerait pas de se dresser toujours devant nous, impérieux et séduisant, comme un fruit empoisonné au goût sucré. La transgression des limites pour s'approprier la connaissance défendue n'est pas le plaisir sexuel déclaré bon par Dieu qu'il a voulu ainsi. Quel geste soulignerait mieux que l'acte sexuel, l'union et l'altérité, le besoin de l'autre pour être soi, la joie intense de se trouver ensemble et de former une seule chair. Une communion intime des corps, des sens, du cœur et âme, c'est l'image même de la communion qui règne en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La sexualité touche au cœur de l'être. On aurait tort de la prendre à la légère et de la dévoyer en la reléguant au simple échange physique entre deux partenaires fidèles ou occasionnels, pareils à des bêtes. Où donc est le scandale lorsqu'on affirme que l'homme et la femme se différencient nettement sur le plan qualitatif des animaux qu'ils sont d'ailleurs tenus de nommer depuis le premier jour? Au roi de la création, le privilège de régner sur les autres créatures, de leur donner un nom savant ou familier. Nous poursuivons cette œuvre du sixième jour. Des centaines de milliers d'espèces animales et végétales restent à identifier. Mais jamais un chien n'a nommé son maître. Il peut tout juste en sentir les effluves personnelles. Bien différents sont l'homme et la femme, donnés l'un à l'autre comme vis-à-vis, compagnons dont le sexe différent et complémentaire les sépare et les rapproche, dont le langage élaboré les élève au rang de créatures à part, capables d'abstraction. On arguera peut-être que l'hébreu utilise aussi le mot « connaître » pour désigner l'acte sexuel, mais l'auteur de la Genèse prend soin de préciser que la femme a goûté le fruit d'une autre connaissance avant que l'homme ne soit tenté à son tour et qu'il ne succombe. Cet intervalle dans le temps suppose une distance dans l'espace. Ici, le mal commence, son histoire s'inscrit dans le temps de l'humanité, et chacun cherche une excuse, un bouc émissaire. « C'est la femme qui est coupable !» s'écrie l'homme. « C'est le serpent !» se défend la femme. Le monde est sans dessus-dessous, car l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est autre que l'arbre de la folie, note le théologien Henri Blocher dans son livre « Révélation des origines ». Nous empruntons nombre d'éléments à cette analyse perspicace et savante des récits de la création. Cette folie, cette folle connaissance est l'antithèse de la sagesse personnifiée à l'œuvre au premier jour de la création. Proverbe chapitre 8. L'arbre mortifère a essaimé dans la vallée de Sodome et Gomorre. Sa semence s'est multipliée. L'ombre de ses rejetons vigoureux s'étend sur le jardin de Dieu, au point de priver l'humanité de lumière. Ses fruits d'indépendance et de liberté factices on nourrit des générations d'êtres humains livrés à la prolifération anarchique, au dérèglement des sens, à l'ivresse de la connaissance et du pouvoir. Nous voulons savoir, nous cherchons à comprendre l'énigme de la vie, le sens de notre existence. Cela est légitime, comme inscrit dans notre être créé à l'image de Dieu. Mais notre quête nous mène au-delà de nous-mêmes. Nous résistons mal à l'attrait de la domination et du pouvoir sur ce monde comme sur ceux qui nous entourent. Nous outrepassons nos limites lorsque nous prétendons cultiver et garder le monde en toute indépendance de Dieu. Et l'on voit ainsi des jeunes Faust et Rastignac, Don Juan et Julien Sorel, se lancer dans la course du savoir et de l'amour, du plaisir de l'âme et du corps, de l'érudition des cinq sens. La quête devient une fin en soi. Il faut chercher encore, toujours poser la question sans jamais se contenter d'une réponse. Il s'agit de moins en moins d'être ou de ne pas être, mais de chercher dans l'action, comme Faust concluant son pacte avec le démon, de courtiser la connaissance, de séduire pour mieux posséder le monde. On se laisse initier par de prétendus maîtres afin de s'élever au sommet de la connaissance pour découvrir que les plus savantes gnoses et tous les hermétismes du monde ne livrent aucun secret ultime qui permette d'affronter sereinement la vie et la mort. On ose avancer en dernier recours dans les alcôves les plus opaques, que l'ultime est encore secret. La vérité, c'est que ce secret ultime est totalement creux. C'est une vanité évelle, une vapeur sans consistance, clame Coëlette l'Ecclésiaste dans la Bible. Il ne suffit donc pas de chercher. Toujours selon le précepte du sage et lucide Coëlette, il faut chercher de tout son cœur. Ecclésiaste chapitre 1 et chapitre 7 à plusieurs versets. Mais pour entrer dans le jardin de Dieu, il suffit de croire et de renouveler chaque jour sa confiance au Seigneur qu'il a planté de ses mains. C'est le seul moyen de prendre le bon chemin et de ne pas se fourvoyer dans les parcs verdoyants désertés par le Créateur. Chapitre 3. Le jardin d'Égypte. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Par la foi, il institua la Pâque et ordonna de répandre du sang sur les portes des maisons afin que l'ange de la mort ne tue pas les premiers-nés des Israélites. Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche. Mais lorsque les Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent noyés. Hébreux, chapitre 11, les versets 27-29. Lot s'est enfui d'un jardin dont Dieu lui-même fut chassé par une population hostile à sa loi inscrite en toute conscience humaine. Ces jardins athées ou peuplés de dieux à l'image des hommes se multiplieront tout au long de l'histoire. Ils seront parfois luxuriants, au moins en apparence. Que l'on songe au roi de Babylone, bien installé derrière ses remparts massifs, ornés de sculptures somptueuses à l'ombre de ses jardins suspendus. Comment ne pas s'imaginer là, dans un coin de paradis ? L'Égypte, comparée par Lot à un jardin de Dieu, offre l'image sans doute la plus frappante du contraste entre la malédiction du désert inhospitalier et la bénédiction des rives fertiles du Nil. Cette immense coulée verte au milieu des sables plonge ses racines dans le fleuve aux crues miraculeuses et bienfaisantes. Le Nil permet à l'une des plus brillantes civilisations de l'Antiquité de se développer, comme le Tigre et l'Euphrate ont contribué à l'essor des empires mésopotamiens. Plus au nord, le roi de Tyr cultivera aussi ses vergers et entretiendra une forêt de cèdres qui feront sa réputation. Le roi Salomon achètera son bois à ses rois du Septentrion pour bâtir ses palais et le temple de Dieu à Jérusalem. Mais la puissance, la richesse et la gloire, lorsqu'elles tournent la tête du souverain, peuvent devenir le prélude d'une chute retentissante. La complainte du prophète Ézéchiel sur le roi de Tyr est éloquente. Ézéchiel chapitre 28. Tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. J'avais mis près de toi un chérubin protecteur de taille impressionnante. Tu vivais sur la montagne qui m'est consacrée et tu marchais parmi des pierres étincelantes. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Tu as fait beaucoup de tort. Tu as été malhonnête dans le trafic de tes marchandises et tu as souillé ainsi tes lieux de culte. Aussi, j'allume dans ta ville un feu qui te détruira. Tous ceux qui regarderont ne verront plus les cendres auxquelles je te réduis. Si Dieu veille, d'une certaine manière, sur ces jardins qui font la gloire des rois, il n'est nulle part affirmé qu'il approuve toujours la conduite des tyrans ou des peuples du Proche-Orient, loin s'en faut. Fussent-ils israélites et installés sur la terre promise? On retrouve depuis deux siècles les traces de ces anciennes civilisations sous des mètres de sable et de poussière. Mais Dieu choisit aussi de se révéler dans le désert le plus ingrat qu'il sait transformer en lieu de bénédiction. Il ne redoute pas le désert. Il ne se laisse pas davantage séduire par les fastes des parcs ou des vergers royaux. Dieu apporte la vie ou exerce son jugement dans le dénuement comme dans l'abondance. Son peuple apprendra cette leçon de foi dans les meilleures comme dans les pires conditions. La Genèse rapporte que Jacob, le troisième des grands patriarches, a été nommé Israël par l'ange de Dieu qu'il combattit au seuil de cette terre promise à son père Isaac et à son grand-père Abraham. Le peuple issu de sa descendance portera désormais ce nom, mais il lui faudra attendre plusieurs siècles avant qu'il ne pénètre dans ce pays où coule le lait et le miel, symbole d'opulence. Pressés par la famine, les fils de Jacob se sont réfugiés en Égypte, où ils ont été accueillis avec bienveillance par le pharaon. Leur frère Joseph, qu'ils ont trahi par jalousie et vendu à des marchands se rendant en Égypte, s'est attiré les faveurs du souverain. Habile et avisé, il sait leur donner une leçon de justice et de pardon. ils préparent ainsi leur installation. Joseph les invite à se réfugier dans ce pays où il a constitué des réserves suffisantes pendant les années prospères afin d'épargner la population des conséquences de la sécheresse régnant alors sur la région. Le clan reçoit l'autorisation de s'installer dans le delta du Nil, sans que cela soulève de réaction particulière. Mais les générations suivantes ne verront pas du même œil cette tribu prolifique qui finit par occuper une place contestée par la population locale. Dieu n'a cependant pas oublié sa promesse adressée au patriarche d'Israël. Il n'est pas insensible non plus aux persécutions que ce peuple subit sous l'autorité implacable de pharaons hostiles. Les Hébreux ont été réduits en esclavage. Ils sont maltraités. Les travaux qui leur sont imposés sont de plus en plus pénibles. Ils aspirent à la liberté. Ils rêvent de cette terre promise. Et leur père, promise à leur père, pardon. Dieu n'a pas rompu son alliance. Il se montre simplement patient. Les peuples cananéens qui occupent le pays visité par Abraham franchissent en effet des limites intolérables. Ils s'enfoncent dans le mal. Ils sacrifient leurs enfants à des divinités assoiffées de sang. Le temps de leur jugement s'approche. C'est l'une des raisons que l'écrivain sacré semble avancer pour légitimer la conquête prochaine du pays par le peuple d'Israël dans Genèse chapitre 15-16. Cette justification théologique étonne pour le moins. Jugement des uns et affranchissement des autres sont ainsi souvent mêlés. Cela paraît injuste, mais qui sommes-nous pour évaluer ceux qui nous ont précédés ou pour reprocher son juste arbitrage à Dieu qui demeure le maître de l'histoire quand bien même elle nous paraîtrait absurde? On conteste aujourd'hui l'historicité de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, car les vestiges archéologiques sont rares, voire inexistants. Sachons attendre de nouvelles lueurs sur ce point, comme il nous faudra encore attendre avant que d'autres contradictions apparentes de la Bible soient éventuellement éclaircies. Quoi qu'il en soit, la sortie du pays de l'esclavage, la traversée du désert ingrat du Sinaï, l'entrée dans la terre promise et la découverte de la liberté. Ce récit haut en couleur nous enseigne une leçon magistrale et fructueuse. Il nous montre le chemin à suivre pour entrer de nouveau dans le jardin de Dieu. La Pâque anticipe toutes les étapes ultérieures de l'exode antique du peuple juif. Moïse est choisi par Dieu pour devenir l'instrument de la libération de ce peuple auquel il appartient. La foi de ses parents l'a sauvé d'une mort certaine et les liens du sang le poussent à se ranger aux côtés des siens. Élevé à la cour du Pharaon, il sait qu'il peut alors perdre tous les avantages d'une richesse déjà acquise et d'une position éminente dans l'entourage immédiat du souverain. Mais Moïse n'a pas encore appris la première des leçons de la foi. Avec Dieu, tout se reçoit par grâce. Inutile de rechercher soi-même la vengeance. Moïse prend la défense de l'un de ses frères et tue un contremaître égyptien. Cela l'oblige à s'enfuir dans le désert pour échapper aux représailles. C'est là, entre le jardin du Nil et le verger de la terre promise, tandis qu'il mène ses troupeaux dans les pâturages clairsemés de la steppe du Sinaï, que Dieu va choisir de lui révéler sa présence, puis l'appeler à mener son peuple vers la liberté. Moïse hésite. Il ne se sent pas à la hauteur. Les années passées dans le désert l'ont façonné et rendu plus humble. Il se juge incapable de porter les fruits du courage, de l'audace et de la foi pour défier le Pharaon afin d'obtenir l'affranchissement du peuple d'Israël. Il invoque son manque d'éloquence, comme si les mots pouvaient suffire à convaincre un tyran. Dieu a devancé son objection. Son frère Aaron, qui a la langue plus facile, le secondera. D'ailleurs, il est déjà en marche. Moïse s'incline. Il se jette face contre terre, sandales déliées. Sa volonté, son être tout entier se courbe devant le Seigneur. Il entend son ordre et lui obéit. Il prévient Séphora et ses enfants, puis il s'en retourne avec eux vers le pays où les Hébreux gémissent sous le joug de l'esclavage. À grand renfort de signes et de prodiges divins, Moïse et Aaron ont su convaincre les anciens qui veillent sur le peuple d'Israël. Ils ont cru leur message. Exode 4, verset 31. La foi se réveille en eux, l'espoir renaît. Dieu a entendu leurs prières, il va les exaucer. Mais la première entrevue avec le Pharaon est un échec. Le souverain égyptien se montre plus dur encore envers Moïse et son peuple. Il multiplie les contraintes. Cette fois, le peuple juif et ses chefs grondent. Ils menacent Moïse. Ils l'accusent de donner à leurs adversaires un prétexte pour les exterminer. Ils lui reprochent de vouloir ainsi leur mort. Ce refrain reviendra tout au long de la sortie d'Égypte. Devant chaque difficulté, à chaque étape où il leur semblera que Dieu les a abandonnés et livrés à la mort, alors qu'ils cherchent simplement à leur apprendre à lui faire confiance. Exode 5, verset 21, 14, verset 10, 12, 16, verset 2, 3, ou Nombre 14, 3, 16, verset 12. Car sans la foi, il est décidément impossible d'entrer dans le jardin de la promesse. Le mot « croire » tient une place particulière dans le récit de l'Exode. Le verbe « croire » ou « avoir foi » dérive de la racine hébraïque « amn » qui évoque l'idée de stabilité, d'assurance, de fiabilité. De cette racine vient aussi le mot « amen ». Il revient dans les moments les plus cruciaux. C'est par la foi que Moïse quitte l'Égypte sans craindre la colère du Pharaon, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est par la foi, poursuit-il, que Moïse célèbre la Pâque en sacrifiant un agneau dont le sang est apposé sur les linteaux des maisons juives. C'est un signe pour que l'ange exterminateur passe au-dessus. Pâque vient du mot hébreu « pécha » et signifie « passer au-dessus ». L'ange exterminateur passe au-dessus de ses habitations afin qu'elles soient épargnées. Enfin, c'est par la foi que le peuple d'Israël traverse le bras de la mer Rouge. Hébreux 11, les versets 23-21. Mais déjà la marche vers l'inconnu reprend dans le désert. Avec ce chapitre 3, nous entrons dans un nouveau jardin, le jardin d'Égypte. Jacob et sa descendance feront l'expérience de la vie sur les rives fertiles du Nil, aidés par leur frère Joseph. Celui qui trahit oublie ses griefs pour faciliter leur installation dans ce jardin d'Égypte. Mais les années passant et l'esclavage qu'ils vont subir va les obliger à sortir d'Égypte. Et c'est là que nous allons rencontrer Moïse. Élevé dans le palais de Pharaon, il va devoir apprendre à obéir. D'un jardin à l'autre, de Frédéric Baudin, c'est le livre que nous lisons en ce moment. N'oubliez pas, chers auditeurs, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus. N'oubliez pas aussi la brève de Je lis pour vous, dans laquelle je vous donne des explications au sujet d'expressions que chacun utilise sans les connaître vraiment. écoutez sur le site de la radio, sur le site radioalliance+.fr. À bientôt, chers auditeurs.